Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi, on est le 12 janvier 2022 et vous avez peut-être vu ce qui se passe en Angleterre où le premier ministre Boris Johnson est vraiment plongé dans l'embarras parce que depuis le début de la pandémie, alors que tout le monde est en confinement, ce qu'ils appellent en Angleterre le lockdown, que les règles sanitaires sont extrêmement rigides pour la population, il y a plein de moments où il y a eu des parties organisées, des gens qui faisaient la fête, des gens qui se réunissaient. Et les gens sont absolument scandalisés en Angleterre. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur exemple d'un gouvernement qui dit à sa population « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». C'est absolument frustrant quand on nous demande de nous serrer la ceinture, de faire des sacrifices, de voir que nos dirigeants, dans ce cas-là, en Angleterre, font exactement le contraire. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir du Royaume-Uni, de l'Angleterre, j'ai poussé un très fâché. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Hier après-midi, la nouvelle est tombée, déjà qui faisait à peu près moins 72 que les nouvelles étaient mauvaises avec la pandémie. En plus, on a appris ceci.
Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Fabienne, Michel et moi avons, dans les dernières minutes, réuni l'équipe du District 31 pour leur annoncer que les prochains épisodes qui seront tournés ce printemps seront les derniers épisodes de la série qui s'arrêtera officiellement au mois d'avril.
On va parler de tout ça avec Fabienne Larouche, qui est non seulement la productrice de District 31, mais aussi la script-éditrice de District 31. Fabienne, bonjour.
Bonjour Sophie.
Écoute, Fabienne, on est amies dans la vie de tous les jours et t'es une vraie cachotière parce que tu m'as jamais prévenue de ça. Je l'ai appris en même temps que tout le monde hier.
Ben,
est-ce que ça a été une décision?
Dur, mais il fallait
le faire.
Oui.
Oui, non, non. Ben je comprends. Je te reproche pas de pas me l'avoir dit. Mais est-ce que ça a été une décision d'affaires, une décision de cœur ou une décision de tête?
Ben, en fait, c'est un peu les trois. En fait, Luc est venu à la maison au mois de septembre. Il commençait à écrire la sixième saison. Ça faisait un mois et demi. Et il a évoqué ça. Il sentait qu'il était rendu à la fin de son récit. Il voulait pas se répéter. Tu sais, là, Fabienne, je le dis encore peut-être une fois ou deux par épisode, tu sais, ici, deux caméras, une là, une là. Et puis, il était usé physiquement, parce que écrire 160 pages de texte par semaine, Sophie, ça use. Et oui. Luc a commencé à écrire la quotidienne, écrire du district, quand moi je finissais d'écrire Virginie puis 30 vies. Donc, autour de 56-57 ans. Et donc, c'est dur, parce que t'as une telle pression, parce que c'est toujours à ton ordinateur, tu dois faire la recherche, tu dois faire tes plans, tu dois organiser ton écriture, tu t'alimentes des acteurs de premier plan, des Gilda Roy, des Vincent, Guillaume Otis, Michel Charette, tu t'occupes aussi des contraintes de tournage, parce que parfois ces acteurs-là ou d'autres acteurs qui viennent juste pour certaines histoires, certaines semaines, ont tournent sur d'autres plateaux. Luc, hier, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis tu sais, on avait décidé, c'est ça, on s'est dit, on va l'apprendre, on va aller l'annoncer à l'équipe, puis aux acteurs avant de rencontrer les journalistes virtuellement. Donc, on est allé sur le plateau, Michel, Luc et moi, et le plan, c'était de que moi, je dise, bon, ben bonne année à l'équipe, puis on est venu nous annoncer quelque chose, puis je passais la parole à Luc. Et Luc, il était incapable, tu sais, parce qu'il pleurait. Mm. C'est quelque chose, Sophie, là, tu sais, 1,5 million de personnes qui t'écoutent par jour, 4 fois semaine, 120 fois par année. C'est un immense succès. Ce qu'il a fait, c'était héroïque. Puis je le regardais, puis je me suis dit, OK, c'est assez. C'est assez. Faut, à un moment donné, faut tourner la page. Et c'est notre métier à nous, les auteurs, de créer des univers où on fait naître des personnages, des histoires, on les fait vivre, puis on les arrête à un moment donné. Tu sais, on l'a vécu, je veux dire, dans ma carrière, mais aussi...
Ben oui, t'as dû faire des deuils.
Game of Thrones.
T'as dû faire des deuils.
Ben absolument. Mais tu sais, il y a des bons deuils, puis il y a des mauvais deuils. Mais le deuil d'une série que t'as aimée, c'est un bon deuil. Tu sais, il reste quand même une demi-saison, là, à regarder ces histoires-là, à continuer d'aimer ces personnages-là. Et moi, Luc, il m'a raconté la fin. Pour les femmes, il y aura personne qui va rester insensible à ça, là. Ça va être un cas de filmez-vous, là. Tellement, oui.
OK, donc tu nous conseilles, le 21 avril, de nous filmer en train de regarder la finale de District 31 pour voir la face qu'on va faire.
Il va avoir... je vais voir, parce que tu sais, je l'ai pas vu encore, il me l'a raconté, je l'ai pas lu, puis j'ai pas vu le montage, mais ce qu'il m'a raconté, c'était, écoute, boy, c'est touchant, là. Puis ce matin, parce que tu sais, Sophie, j'ai fait beaucoup d'entrevues, puis ce matin, c'était ma dernière, c'était mon... C'était ma série sur le Sunday. Il y a des animateurs qui me demandaient, est-ce qu'il va rester encore des personnages? Oui, il va en rester assez pour avoir une belle fin.
Oui, voilà. Parce que j'ai fait une entrevue avec Luc la semaine dernière et je lui disais...
Oui,
puis je lui parlais de Gilderoy, puis il m'a dit jamais je vais tuer Gilderoy ou le personnage du colonel, du lieutenant Chiasson, parce que c'est trop un beau personnage, donc on s'attend pas non plus à ce qu'il y ait une bombe qui saute dans le district 31 puis que tout le monde soit mort, ce serait trop facile. Fabienne, il y a quelque chose dont il faut absolument qu'on parle. On est au Québec, on a des grosses séries comme ça qui ont un auteur. Toi, t'as écrit je sais plus trop combien d'épisodes de Virginie, de 30 vies et de plein d'autres séries. Luc, évidemment, écrivait les épisodes. Toi, t'étais script éditrice, showrunner. Est-ce qu'on devrait pas commencer à penser à un modèle plus américain où il y a plusieurs auteurs sur une série pour que le poids ne soit pas sur les épaules d'un seul auteur?
Ben, faut comprendre d'abord qu'une quotidienne, c'est une exception. Là présentement, Pixcom et TVA préparent une quotidienne qui va être écrite par plusieurs auteurs. Il y a un showrunner, puis il y a plusieurs auteurs qui participent à l'écriture. Moi, ça aussi, c'est une question qui m'a été posée ce matin. Est-ce que tu as pensé à faire écrire ça par quelqu'un d'autre? Non, jamais. Ça n'a même pas effleuré mon esprit. Parce qu'il y a des auteurs qui ont un langage... pas juste un langage. Un, parce que, bon, Luc, il a été courageux puis persévérant, là. Mais tellement talentueux, tellement doué, qu'il a son propre son, sa propre sonorité, son propre vocabulaire, son langage. Tu peux pas refiler ça à quelqu'un d'autre. Je veux dire, la série ou bien t'as commencé avec plusieurs auteurs, puis là, t'as un showrunner qui liste les épisodes pour que ça fasse du sens, là, qu'on puisse reconnaître les personnages, là, qui parlent pas avec quatre niveaux de langage différents. Mais Luc, oublie ça, là. Jamais ça me serait passé par l'idée de faire écrire ça. Même Daniel Trottier, tu sais, chacun a son propre langage. Donc, puis la quotidienne, c'est un défi d'auteur. Quand t'aimes l'écriture, tu sais, quand t'aimes l'écriture, tu t'en vas, tu décides. Luc, c'était ça. Il avait envie d'essayer ça, d'essayer la quotidienne. Là, c'est fini. Il l'a fait. Il a écrit des 10 heures, des 13 heures, une quotidienne. Là, il va écrire DPCP, qui est une série annuelle, un 24 heures. Là, il a décidé que c'est ça, ce format-là qui l'intéressait. Luc, il va explorer tous les formats de télé.
C'est ça. Mais
tu sais, les Américains, ils font des séries de 10 heures avec 5 auteurs. C'est une autre façon de travailler, Sophie. Tu sais, ça peut se faire, mais un 10 heures ou un 13 heures, tu sais, moi, j'ai écrit 20 ans de quotidien, j'ai écrit 1500 heures de TV, 2400 épisodes de demi-heure. Puis, à ma connaissance, faudrait demander à Michel, là, mais j'ai jamais été en burn-out, là. Tu sais, ça dépend.
Faudrait demander à Michel, ton mari. Ton mari qui est psy, il faudrait lui demander s'il considère que...
Fait un burn-out. Moi, je n'en souviens pas, là. Peut-être.
C'est ça. Peut-être que tu as fait un burn-out sans le savoir. Écoute, il y a un élément qui a été évoqué par Luc Dionne, c'est le décès de façon subite et très mystérieuse de Jean-Marc Vallée. Je pense que ça a été un électrochoc pour beaucoup de gens qui se sont dit, ben écoute, si Jean-Marc Vallée peut mourir comme ça à 58 ans au sommet de sa carrière, peut-être c'est un message à tout le monde de profiter plus de la vie. Est-ce que toi, ça a été un choc pour toi de la même ampleur, la mort?
Ce qui est un choc, c'est la mort jeune, sans raison apparente, c'est toujours un choc. Mais c'est sûr que quand tu écris une quotidienne, tu sais, Sophie, écrire une quotidienne, c'est une vie d'asset, là. Tu sais, il y a de grands plaisirs parce que tu vas connecter avec 1 500 000 téléspectateurs par jour. Mais il y a de grandes privations aussi. Tu sais, les fêtes, t'as pas le choix. T'es Luc aujourd'hui, c'est moi, là, qui le remplace, qui fait les entrevues parce que lui, il y a 4 épisodes à livrer dimanche parce qu'il y a une équipe de 65 personnes qui attendent ça. Alors, t'as tout le temps cette pression-là. Alors, c'est sûr que, tu sais, Jean-Marc, il en parlait, je me suis dit, oui, c'est vrai. Ce que ça dit, la mort de Jean-Marc Vallée, c'est enjoy, tu sais, prends du temps pour toi. Puis quand t'écris une quotidienne, t'en as plus de temps. Alors, Luc, là, il fait pas aussi, tu sais, c'est pas un caprice. Il est usé, Sophie. Usé.
Je comprends, voilà. Tout à fait. C'est à la fois contradictoire.
Les téléspectateurs ont été super respectueux. T'sais, c'est sûr qu'ils sont déçus parce que, bon, la série qu'ils aiment va arrêter, mais ils ont compris tout à fait la décision de Luc. Tout à fait.
Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on voit passer sur les médias sociaux, sur la page Facebook de District 31, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ça se fait dans un contexte de pandémie, et depuis 2 ans, pour beaucoup de gens, le rendez-vous quotidien avec District 31, c'était comme une petite fenêtre de bonheur, une petite fenêtre d'évasion, d'échappatoire, où on se disait, bon, OK, les mauvaises sont nouvelles, les nouvelles sont mauvaises à 13h, mais à District 31, les nouvelles vont nous amener ailleurs. Et il y a même des psychologues qui disent à quel point c'est important d'avoir cet échappatoire-là. Donc, on pourrait être fâché de ça, mais en même temps, on comprend que le gars, il est à bout, là.
Non, tu l'as dit, sa fille est à bout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Tu sais, regarde ça. Puis je comprends ça, tu sais, on m'a demandé, on a dit, ouais, mais tu sais, comme productrice, elle va essayer, ou diffuseur, elle va essayer de dire, peux-tu faire une année de plus, une demi-année? Non!
Mais non.
C'est fini. Il est arrivé au bout de son récit. Il veut pas faire l'année de trop. Tu sais, moi, là, Sophie, je l'ai vécu. Je dis à Luc, prends mon expérience aussi. Tu sais, parce que c'est sûr que ça devient une famille. Tu fais 150 jours de tournage. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Alors, tu deviens ami avec des acteurs, avec des techniciens. Tu te fais dire, écoute, t'es mon gagne-pain. Si je travaille plus après, c'est fini. Tu sais, moi, là, j'ai martyrisé Virginie 2 ans. J'aurais dû arrêter Virginie 2 ans avant. Mais je l'ai fait. Tu le fais parce que, mais parce que oui, c'est ton gagne-pain aussi, oui, parce que c'est dur de t'arracher. Mais j'ai dit à Luc, si tu le sens, c'est assez. Prends de mon expérience. C'est dur arrêter. C'est dur, Sophie, parce que t'aimes tes personnages, tu sais, il y a une sécurité là-dedans. Mais c'est pas notre métier. Notre métier, il dit de se mettre à risque tout le temps. Il faut que tu sois capable de t'arracher. Alors,
oui. Voilà. Fabienne, il nous reste un petit peu de temps, puis je veux absolument te parler parce que, évidemment, comme productrice, c'est aussi toi qui es derrière ce projet absolument fabuleux qui s'intitule Le Bonheur, dont on va pouvoir voir le deuxième épisode ce soir à 21h30 à TVA, et Le pétage de plomb de Michel Charrette. On va se faire plaisir, on va en écouter un petit extrait parce que c'est juste trop savoureux.
Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Puis après 20 ans, ça donne quoi? Des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak!
Ok, calmez-vous, monsieur.
Ta gueule, hostie de face de raie, j'ai pas fini!
Il y a Richard Martineau a interviewé hier un psychologue qui a parmi ses clients, ses patients, différentes personnes dans l'enseignement qui lui ont dit à quel point ça leur avait fait du bien. Ce cri du cœur-là, toi, t'as déjà été professeur, t'as écrit une série qui se passait dans le milieu de l'éducation. Est-ce que t'as un petit peu insufflé de ce qui se dit à François Havard et Daniel Gagnon quand ils ont écrit ce monologue-là?
Non, mais je peux te dire quelque chose, Sophie. Il y a quelque chose que je faisais quand j'étais enseignante. C'était moi la bosse dans ma classe. C'était pas un parent, moi, j'étais supportée, aidée par une équipe de direction qui on me vouvoyait. Il y a un moment, écoute, c'est sûr, Sophie, que cette série-là, c'est bon, c'est François Havard qui est un grand observateur de la condition humaine. François, il voit des choses, il juge pas, il juge pas, mais tout le monde y passe, là. OK, on s'entend qu'il n'y a pas de discrimination sur qui va avoir, de qui il va parler.
Oui, c'est parce on va devoir se quitter, Fabienne. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a, je suis vraiment désolée.
OK, bye-bye d'abord. Bye-bye,
On se reparlera pour le bonheur. Merci beaucoup pour toutes ces années-là de District 31, puis on va être là en avril. Merci beaucoup, Fabienne.
Bye-bye.
Au revoir. Fabienne Larouche, donc, qui est à la fois productrice de District 31, aussi script-éditrice, et évidemment, c'est elle qui est derrière aussi le succès de la série Le Bonheur. Merci beaucoup, Fabienne.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Vous le sentez, on le sent tous autour de nous, il y a vraiment une détresse, une sorte d'écœurantite aiguë, et ça pèse sur le moral de tout le monde, cette cinquième vague de pandémie, les chiffres sont pas encourageants du tout. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour Sophie, je suis contente qu'on en parle ce matin parce que c'est pas banal ce qu'on vit, puis ce qu'on ressent aussi, puis ça se vit dans toutes les sphères présentement de notre vie. Tu sais, il y a pas d'endroit refuge présentement.
Il n'y a pas d'échappatoire.
Si... Non, exactement. Partout, on le vit. Partout, on arrive devant un mur à quelque part. On a des règles, on a des mesures, on a le couvre-feu. Écoute, on n'énumérera pas tout ce qu'on doit faire. Mais, tu sais, quand on regarde les journaux, quand on écoute les nouvelles, ça ne fait que s'empirer présentement. On nous dit, bon, probablement qu'avec Omicron, on aura l'immunité collective nécessaire pour vraiment que ça fasse partie de nos vies et qu'on soit pas, tu sais, coupé du monde comme on l'est. Mais on dirait que tant qu'on le vit pas, là, on le croira pas, là. Tu sais, là, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. J'ai l'impression que ça marche pas pour personne présentement. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est la lassitude qu'on est en train de ressentir. Il y a un manque de clarté aussi dans les consignes. Tu sais, juste demain, on va nous dire si l'école va recommencer lundi. Mais pour des parents, là, qui sont... Moi, je travaille en télétravail aussi. Je fais de la télé, mais quand je ne suis pas en télé, je suis dans mon bureau.
Et je fais les deux, le travail télé et le télétravail.
Oui, exactement. Et tu sais, je travaille, mon équipe est principalement composée de femmes et je les vois là présentement, sont avec nous. En même temps, il y a les enfants qui sont derrière l'ordinateur parce que l'école se passe à la maison. À un moment donné, ben ils ont faim, ils viennent voir leur mère. Tu sais, c'est pour la personne qui est en train de travailler, on dirait qu'on n'aurait jamais pensé vivre des situations comme ça, que ton enfant arrive dans l'écran. C'était cute l'année passée, puis moi, je trouve ça, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui juge ça, là. C'est absolument, il ne faut pas mettre de la pression, une couche supplémentaire sur ces personnes-là pour dire, hey, là, ça serait le fun qu'on ne sente pas. Non, on est habitué de sentir ce qui se passe dans les maisons, sauf que moi, je le sens que ces parents-là sont pas mal à bout de vivre de cette façon-là. Et là, en plus, on ne sait pas si tu lundi, si tu l'autre lundi, on s'organise-tu, tu sais, de le savoir quelques jours d'avance. Je pense que les parents auraient mérité une semaine au moins de délai, tu sais, parce que c'est de l'organisation ce qu'on demande. Et ça, c'est pas juste à ce volet, c'est à tous les volets. Hier, je parlais justement avec une fille avec qui je travaille, qui fait du télétravail depuis maintenant 2 ans. qui est à bout, mais vraiment. Tu sais, elle dit, moi, mon mari, il part le matin. Lui, il a un job à l'extérieur. Mm-hmm. Mais moi, ça se passe devant mon écran avec les enfants qui font plus de sport. Fait qu'il faut que j'aille faire du sport avec eux après ma journée. Faut que je fasse les repas. Tu sais, tout ça en travaillant, en dirigeant une équipe mm-hmm. aussi. Alors, je trouve que la charge mentale, la charge physique aussi, devient, ça déborde de partout.
Et il y a un autre aspect aussi, Marie-Claude, qui se rajoute à ça, c'est que, bon, la vie de couple, mettons, ou la vie de famille, quand t'es un petit peu tanné de voir l'autre ou de, tu sais, t'as ouais. des échappatoires. Tu peux sortir aller prendre une marche, tu peux aller, tu dis à tout le monde, ben, faites-vous à souper ce soir, faites venir de la pizza, moi je m'en vais voir un bon film, ou alors je m'en vais chez l'esthéticienne, ou peu importe, là, ouais. je sors, je vous laisse ce soir avec les enfants, là, puis je m'en vais prendre un verre, c'est jeudi soir, c'est la soirée des filles, puis je vois mes chums de filles. Mais on n'a plus ça. Et j'ai l'impression que tout ça, le fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire, ça va faire en sorte que les bulles familiales ou les bulles de couple vont être de plus en plus tendues. Et moi, ça me fait peur quand je vois en plus que... Je dis pas que ça va nécessairement dans tous les couples, il va y avoir de la violence conjugale ou de la violence psychologique, mais je dis juste que quand on voit parallèlement à ça, en plus, que dans les ressources, justement, de violence conjugale, les gens sont débordés parce qu'il y a plein de gens parmi le personnel qui a la COVID, je trouve qu'on se prépare, au point de vue sociologique, à une situation extrêmement difficile.
Hey, écoute, puis quand on voit les itinérants aussi, tu sais, qui savent même pas où aller. Quand on voit justement ces femmes-là qui savent pas où aller, mais le couple là, en soi, même le oui. le couple qui va bien normalement là, ben il va pas si bien présentement. Je veux dire, hey, moi je suis difficile à vivre là, Sophie, de ce temps-là. Je veux dire, ma liberté est comme en train de partout où je me revire. On dirait, moi, je vais te raconter. C'est, moi, j'étais allée faire salut bonjour à Québec dimanche matin.
Oui, quand, j'ai vu ça.
Bon, ben là, je suis sortie du studio, il pleuvait. Je dis OK, mais ça, si ça s'en va vers le verglas, admettons, là, je fais c'est quoi sur
Québec?
La 20? Les restaurants oui. sont fermés, les magasins sont fermés, j'ai pas le droit d'aller chez quelqu'un. Fait que tout ce qui me reste, c'est être dans ma voiture devant une station-service. Je veux dire, tu sais, ça vient nous chercher tout le temps. Ça nous apporte énormément d'inquiétude, tout ce qu'on vit. Mais pour les couples, là, moi, je parlais hier, c'était triste, je parlais à quelqu'un qui, tu sais, je le savais pas, et en parlant avec, j'ai compris qu'elle n'était plus en couple.
Parce
qu'elle a dit, la pandémie a eu raison. Tous nos projets ont pris fin. Puis à un moment donné, ben c'est trop dur à vivre. Là, chacun vit ses deuils. Puis à un moment donné, tu te dis, ben garde, on va aller vivre ça séparément parce qu'ensemble, c'est encore trop lourd. Alors, mais c'est comme ça. C'est triste à entendre. Et on parle aussi, il y a aussi les gens seuls. Les gens seuls, comment tu fais pour peut-être trouver l'amour dans ta vie, tu sais, parce que quand t'es seul, tu peux décider que t'es bien comme ça, mais tu peux décider aussi que c'est une période temporaire, puis t'as toujours espoir. Mmh. Donc, tu rencontres plus tes collègues de travail, tu vas pas à l'école en présentiel si t'es à l'université présentement, tu t'as plus de cours.
Il y a
plus de bars, t'es plus censé d'aller chez quelqu'un, tu rencontres comment les gens?
Ouais.
C'est quoi l'espoir de trouver l'amour présentement?
T'as tout à fait raison, donc si t'es en couple, c'est difficile d'être en couple, si t'es tout
oui.
seul, c'est difficile de devenir en couple,
oui.
pour
oui.
que donc t'es vraiment, oui. t'es comme sans issue, là, t'as l'impression que c'est comme un petit rat de laboratoire, pogné dans un labyrinthe, puis il passe son temps à frapper des murs, puis il y a pas vraiment de porte de sortie, donc regardons ça, essayons de regarder ça d'un côté... positif, comment on fait pour avoir des routines ou pour avoir des choses qui nous sortent de ça? Je vais te raconter quelque chose. Moi, il y a plusieurs années de ça, puis j'avais écrit une chronique là-dessus dans le magazine Châtelaine, il y a plusieurs années de ça. Quand j'étais à peu près dans la jeune trentaine, j'ai vraiment eu une période de passage à vide. Je venais de me séparer, je trouvais ça difficile. Et à un moment donné, je suis tombée sur un livre qui donnait un conseil de dire, ben prenez un cahier et écrivez chaque jour à la fin de la journée 5 choses qui vous ont procuré du bonheur. Ça peut être des petites affaires, des grosses affaires. Et au début, ben j'arrivais même pas à en trouver 5. Puis après, j'ai pris l'habitude. Puis c'est ça qui m'a sorti du trou. Et je me demande si on devrait pas collectivement faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que les sources de bonheur sont peut-être limitées, mais essayons de voir chaque jour dans notre journée des affaires qui nous ont donné du plaisir. Et je veux dire, oui, District 31 est fini, mais il y a d'autres émissions qu'on peut regarder.
Ben là, il y a Star Academy qui est commencé.
Voilà.
Ben, moi, là, j'ai mon rendez-vous à 19h30, Star Academy. Mais t'as raison, c'est ça, faut s'accrocher à ce qui va, parce que ce qui va pas, quand on a juste ouvert la télé, tu sais, je veux dire, on écoute ce qui va pas, puis faut le savoir aussi ce qui va pas. Moi, je trouve ça important de savoir dans l'espace dans lequel on est, qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis tu sais, puis pas avoir peur de dire qu'on a des choses qui vont bien, parce que moi, je trouve que des fois, quand on essaie de dire quelque chose à quelqu'un, on va dire, ben oui, mais moi, c'est bien pire, tu sais, toi, t'as plus d'enfants à l'école, toi, t'as plus ci, toi, t'as plus ça. Je pense qu'il faut, on peut plus se comparer présentement. On a chacun nos obstacles à surmonter présentement, puis c'est pas nécessairement les mêmes, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Et dans les prochains jours, il y a un psychiatre français très connu, Christophe André, qui va sortir un livre qui s'appelle « Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne ». Et écoute, j'ai hâte de lire parce que ce qu'il dit là-dedans essentiellement, c'est que la consolation, c'est pas la recherche de solutions, mais c'est un acte de présence aimante. Puis je me disais, mon Dieu, qu'on a besoin d'entendre. Tu sais, moi, je suis pas psychopop, puis lui, c'est certainement pas de la psychopop. Là, c'est un psychiatre qui est très reconnu. Mais c'est vrai que quand quelqu'un nous confie, écoute, ça va pas, mon couple, c'est difficile, ou encore avec les enfants, c'est difficile, j'ai une charge mentale, mon employeur m'en demande beaucoup. Mais on n'est pas là nécessairement pour trouver des solutions, mais juste de l'entendre et de valider la souffrance que cette personne a, c'est déjà énorme. C'est ça notre rôle, parce que toujours de dire, ah ben non, mais moi c'est pire, hein? Moi j'en ai 3 enfants, toi t'en as juste 2, ça on n'est plus capable. Parce que ça fait qu'on vient comme en colère de jamais être capable de s'exprimer pleinement. Ça fait que je trouve que cette phrase-là, une consolation n'est pas la recherche de solutions, mais un acte de présence aimante. Puis on s'entend, la présence, ça peut être par Zoom, ça peut être au téléphone, ça peut être en faisant une marche à 8 mètres de distance dehors. Mais je trouve ça important de, puis ce que tu dis, de noter ce qui finit par bien aller, parce que c'est des petits objectifs. J'ai décidé, moi, tous les lundis, présentement, avec Guillaume Dulude à l'émission Marie-Claude, mon émission, de se faire un plan de match avec les téléspectateurs, parce que moi, j'ai appelé Guillaume à un moment donné, tu sais, je disais, écoute, moi, là, je suis complètement déséquilibrée, j'ai besoin d'un plan de match. Puis la première chose, il m'a dit, il faut se donner des petits objectifs pour avoir des réussites. Puis c'est ce que tu dis, dans le fond.
Oui, tout à fait. Ben écoute, j'aime ça. Donc, tu fais ça tous les lundis à ton émission. Ben écoute, on pourrait prendre cette habitude-là aussi à l'émission le lundi, peut-être. Parce que je trouve aussi que, bon, évidemment, on est dans les médias, donc on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la COVID. Puis, tu vois, ce matin, je faisais ma chronique avec Philippe Vincent à Foisy, et je me suis dit, ben je vais prendre 2 sujets qui ont rien à voir avec la COVID. Ben c'est juste, on devient à un moment donné juste tanné de parler constamment de ça. Donc, parce que c'est sûr que tu ouvres le Journal de Montréal et tu vois, par exemple, des témoignages absolument terribles de gens qui vivent avec une souffrance physique épouvantable, qui voyaient la lumière au bout du tunnel en se disant, bon, ben, telle date en janvier, je vais me faire opérer. Il y a l'exemple, par exemple, de cette dame qui est arrivée même à l'hôpital et quelques secondes seulement avant son opération, l'infirmière est venue la voir en disant, ben non, l'opération est annulée. C'est absolument épouvantable. Donc, il faut trouver des messages positifs, il faut trouver des choses dans la société qui vont bien, parce que sinon, c'est trop difficile à porter, là.
Oui, absolument. Puis tu vois, ben, écoute, moi, là, je suis pour ça qu'on parle de comment on s'accroche, comment on se donne des objectifs et comment on gère notre temps. Tu sais, c'est la première chose qu'on s'est parlé avec Guillaume. Quand on regarde nos horaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait enlever pour penser à soi? Moi, je me suis commandé des raquettes cette semaine. J'ai dit hier.
Je suis jalouse. Je veux faire de la raquette. Ben, c'est tellement
écoute,
une bonne idée.
Moi, je me disais, là, je veux faire de la raquette. J'en ai pas de raquette présentement. C'est que j'en ai commandé en ligne. Ils sont arrivés. Et là, je me dis, moi, j'ai tout le temps peur de glisser, de tomber. Tu sais, moi, je me suis cassée de tout partout dans ma vie. Fait que là, avec des raquettes, tu sais, j'en ai déjà fait souvent de la raquette. C'est un sport que j'aime. Mais là, je me suis commandé mes raquettes. Donc là, je veux en faire tous les jours pour ma santé mentale, pour mon équilibre, pour être avoir une bouffée de bonheur. Tu sais, parce que on est quand même chanceux d'avoir cette saison-là. Tu sais, des fois, on trouve ça difficile l'hiver, mais il reste que c'est magnifique quand on est dehors. Alors, quand on est habillé chaudement, écoute, c'est ce que je me suis trouvé, moi. Il y en a que ça va peut-être être la lecture. Moi, je lis tellement pour mon travail. Je suis tout le temps devant mon écran. Donc, ça va me pousser. On dirait que j'ai besoin de me donner un coup de pied dans le derrière, Sophie, tu sais, pour bouger, pour oui. sortir d'une forme de... un peu de lassitude. Tu sais, c'est comme...
Comme une léthargie. On est un peu comme enveloppé dans l'espèce de coton, un petit peu dans la choucroute. Écoute, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec José Lavigueur, qu'on salue, puis elle me disait qu'elle, quand les gens n'arrivaient pas à se motiver à faire du sport, elle leur disait de faire la méthode Bravo. Donc, je me souviens plus de toutes les autres lettres, B-R-A-V-O, mais je me souviens de la première lettre, B, elle dit bienveillance. Quand on fait du sport ou quand on fait des entraînements, la première chose à laquelle on doit penser, c'est de la bienveillance. On le fait parce qu'on prend soin de soi. Non, parce que c'est de l'amour envers soi-même, et je pense que c'est de ça qu'on a absolument besoin en ce moment. Marie-Claude, j'aime ça, ce genre de d'échange-là où on est plus dans le positif, dans le ressenti, puis dans l'humain aussi. Ouais. C'est super important de sortir parfois des grands titres, puis d'échanger à cœur ouvert. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis quand tu feras ta première sortie en raquette, tu me raconteras ça le lendemain ici.
Je t'enverrai une photo, puis je veux en faire tous les jours. Là, vraiment, c'est des petits objectifs avec des petits succès à quelque part. Fait que je suis là-dedans complètement, là.
Parfait.
Alors, je te tiens au courant.
Team Raquette, merci beaucoup.
Ah oui, merci Sophie, bye-bye.
Marie-Claude Barrette, mieux connue sous le nom de Marie-Claude Raquette, ça va être son nouveau mode de vie. Merci beaucoup Marie-Claude, on se retrouve demain.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On le sait, le couvre-feu qui est imposé par le gouvernement, le groupe pour lutter contre la COVID-19 a toutes sortes d'impacts sur toutes sortes de communautés différentes à l'intérieur de la société québécoise. Quand on y pense deux secondes, quand quelqu'un est travailleur ou travailleuse du sexe, ben évidemment, ça les affecte particulièrement. On va parler de tout ça avec Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella. Bonjour Madame Wesley.
Bonjour.
Comment ça se passe dans le milieu des travailleuses du sexe depuis l'imposition du couvre-feu? Est-ce que vos collègues sont l'objet de surveillance accrue des policiers? Est-ce que ça a un impact sur leur travail? Comment ça se passe sur le terrain?
Oui, absolument. L'impact, il est vraiment énorme. Je pense que la pandémie en soi et toutes les mesures ont beaucoup d'impact, évidemment, sur les travailleuses du sexe, mais le couvre-feu en particulier, c'est une mesure qui vient rendre la vie très, très, très difficile pour beaucoup de femmes. Ça force les personnes à faire des choix de soit arrêter de travailler, mais sans avoir accès aux aides gouvernementales, ou de quand même travailler la nuit et de s'exposer à la surveillance policière et à tous les risques qui viennent avec ça. On voit vraiment là, une grosse augmentation dans notre communauté de la pauvreté. Les personnes souvent ont perdu vraiment beaucoup de leurs revenus, puis aussi que les femmes doivent maintenant prendre toutes sortes de risques qui peuvent augmenter le risque de violence ou l'isolation dans leur travail pour se protéger pendant la période de couvre-feu.
Est-ce que parmi les témoignages que vous avez recueillis, il y en a quelques-unes ou plusieurs qui ont justement eu des contraventions parce que la police les avait verbalisées parce qu'elles travaillaient ou elles étaient dans la rue passé 22 heures, ou est-ce qu'on n'est pas encore rendu avec des contraventions de ce type-là?
Donc, pour l'instant, avec le nouveau couvre-feu, on n'a pas encore récolté nécessairement des données là, spécifiques sur les contraventions reçues. Souvent, ça prend un petit délai là, pour avoir cette information-là. Mais on a vu l'année dernière que beaucoup de contraventions ont été données. Et ce qu'on observe toujours dans notre communauté, c'est que souvent, les policiers vont interagir avec nous, vont nous harceler, vont même nous menacer puis être très, très agressifs avec nous, mais ne vont pas nécessairement terminer l'interaction avec une preuve comme une arrestation ou une contravention, parce que souvent, leur objectif est beaucoup plus d'un harcèlement constant des mêmes personnes. Donc, souvent, quelque chose comme un couvre-feu devient une justification pour rentrer dans nos maisons, pour rentrer dans nos milieux de travail, pour nous arrêter en voiture ou sur la rue pour prendre nos informations, ce qui en soi peut être très, très traumatisant et dangereux pour les femmes qui travaillent la nuit.
Oui. Je veux juste revenir là-dessus parce que c'est une affirmation quand même assez forte que vous faites. Vous dites donc qu'en temps normal, il y a beaucoup de policiers qui vous harcèlent, vous et vos collègues, mais que donc ces mesures-là sont comme une permission ou une banalisation du harcèlement, que les policiers vous harcèlent plus, c'est ce que je dois comprendre de ce que vous dites?
Oui, absolument, pour plusieurs raisons, entre autres parce que dès que les policiers ont des nouveaux pouvoirs et de la nouvelle énergie à mettre à surveiller la population, ils vont toujours aller vers les personnes qui sont déjà considérées comme indésirables et qui veulent déjà se débarrasser. Donc, c'est sûr que les travailleurs du sexe rentrent dans cette catégorie-là. Mais il y a aussi le fait que le couvre-feu donne vraiment des pouvoirs très, très réels aux policiers. Il y a quand même des droits qui existent dans notre société. Déjà, en tant que travailleurs du sexe, parce qu'on commet un crime lorsqu'on exerce notre métier, ça nous enlève beaucoup de droits. Mais quand les policiers ont ce droit-là, maintenant, de n'importe quelle personne qui est dehors après 22 heures, doit montrer ses pièces d'identité. Les policiers peuvent l'interpeller. On sait que ça fait des années qu'on travaille contre le profilage et qu'on essaie de faire comprendre aux policiers qu'ils ne peuvent pas simplement interrompre quelqu'un parce qu'elle a l'air d'une travailleuse du sexe. Avec le couvre-feu, bien maintenant, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Ils vont pas justifier à personne pourquoi ils ont approché une certaine personne, pourquoi ils sont allés quelque part. Donc, ça donne vraiment une impression de pouvoir quasi absolu aux policiers si on combine ensemble leur pouvoir au niveau des lois criminelles, au niveau des règlements municipaux et en plus maintenant au niveau des lois de santé publique. Donc, ça fait vraiment des policiers qui ont tout un inventaire d'outils, et un policier qui veut harceler quelqu'un a aucune limite, en fait, là, maintenant, dans son comportement.
Mais j'essaie de comprendre, Mme Wesley, qu'est-ce que vous suggérez? C'est-à-dire que vous voudriez quoi? Donc, parce que la loi doit être la même pour tout le monde. Donc, personne, normalement, selon la loi, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la loi, mais le couvre-feu dit personne ne doit être en dehors de son domicile passé 22 heures. Donc, vous voudriez quoi? Que les policiers fassent une exception pour les travailleuses du sexe? J'essaie de comprendre ce que vous proposeriez, disons, comme solution, hein? Parce que, mettons-nous en mode solution.
Oui, ben pour nous, la première chose tout d'abord qu'il faut reconnaître, c'est que le couvre-feu, c'est pas une mesure qui est basée dans la science, c'est pas une mesure utile au niveau de la santé publique. Évidemment, nous, les travailleurs du sexe, on est dans une pandémie de VIH depuis très longtemps, on est des expertes aussi au niveau de la santé publique, et c'est évident pour nous qu'il n'y a pas d'évidence pour supporter un couvre-feu pour qui que ce soit. L'autre chose, c'est lorsqu'on a une mesure, même s'il y avait un bénéfice au couvre-feu, il faut toujours évaluer les impacts réels d'une politique et voir est-ce que ça vaut la peine. Et un couvre-feu, je pense que ça tombe vraiment du côté de l'analyse que non, en fait, un bénéfice quelconque du couvre-feu, tous les torts que ça peut causer à plusieurs personnes de toutes sortes de communautés, ça ne peut pas justifier. Et ensuite, l'autre chose qui est un combat, je pense, constant, c'est vraiment de défaire les comportements policiers de discrimination, les comportements harcelants. Donc, on sait que ça fait partie du travail du SPVM. La Ville de Montréal l'a reconnu il y a déjà plusieurs années dans une commission sur le profilage. C'est quelque chose qui est constamment ramené. On sait que les policiers discriminent, que les policiers sont violents envers certaines personnes, surtout les femmes travailleuses du sexe. Et donc, il faut éventuellement adresser ce problème-là. Et ça, ça veut dire commencer à donner des conséquences aux policiers qui ont des comportements problématiques, allouer des ressources peut-être différemment pour qu'on n'ait pas autant de policiers dont le travail à temps plein, c'est de nous surveiller en tant que travailleuses du sexe. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus profondes et systémiques là, que des petites mesures qu'on pourrait modifier le couvre-feu pour le rendre plus intéressant. Là, malheureusement, nous, le couvre-feu, on voit que c'est une mesure qu'on peut pas sauver là, avec des modifications. C'est une mesure qu'on espère voir enlever le plus rapidement possible.
Donc, je comprends que, d'après ce que vous nous dites, qu'il y a cette frustration dans les rapports avec l'État policier et avec les services policiers. Vous nous disiez tout à l'heure que pour vous et vos collègues, que, évidemment, ce couvre-feu, de façon générale, mais aussi la pandémie encore plus, c'est une énorme perte de revenus pour vos clientes. Mm-hmm. En même temps, Madame Wesley, on peut pas s'empêcher de dire, bon, on est en période de pandémie, quelle façon ça se transmet ce truc-là, c'est aussi parce que faut maintenir une distance de 2 mètres. J'imagine que quand on a un rapport sexuel entre 2 individus, ben il y a pas de distanciation de 2 mètres. Donc on s'entend que pratiquer le métier de travailleuse du sexe en temps de pandémie, c'est pas l'idéal non plus. Donc de quelle façon les travailleuses du sexe se protègent et protègent les clients en période de coronavirus?
Oui, donc ça va varier évidemment selon la personne et les services exacts qu'elle offre. Évidemment, le port du masque et le masque de meilleure qualité possible fait souvent partie des pratiques en ce moment là, des travailleuses du sexe. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont limiter le nombre de clients qu'elles vont voir ou les circonstances dans lesquelles elles vont voir des clients ou qui, si elles prennent des risques au niveau du travail, vont s'assurer dans leur vie personnelle, leur vie en dehors du travail, de vraiment s'isoler entièrement et de faire très, très attention, de tester régulièrement. Donc, les femmes trouvent des solutions. On est quand même des expertes du risque viral dans notre travail. Donc, même depuis le tout début de la pandémie, c'était plus facile peut-être que d'autres professions pour les travailleurs du sexe de trouver des solutions. Mais l'autre enjeu, c'est qu'évidemment, pour beaucoup de personnes, la solution, c'est de ne pas travailler dans un contexte actuel, mais justement parce que le travail du sexe, il est criminalisé, on voit le manque d'accès aux aides gouvernementales que d'autres travailleurs qui ont des professions à risque ont accès. Donc, c'est pour ça que les femmes se retrouvent dans des situations très, très difficiles. On doit choisir, mais soit je prends ces risques-là et je continue de travailler, ou qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, je vais être à la rue, je vais perdre, j'aurai pas de revenus, j'aurai pas d'argent, j'aurai aucun remplacement de revenus non plus. Et puis, évidemment, si on regarde les options alternatives qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait, par exemple, changer de travail, eh bien, souvent, c'est d'autres emplois qui sont tout aussi risqués, comme travailler dans des restaurants ou travailler dans le milieu de la santé. Souvent, les personnes doivent accepter là, un certain niveau de risque, mais il y a beaucoup de mesures très, très créatives là, au sein de l'industrie qui existent pour essayer de mitiger au maximum les risques.
D'accord. En même temps, c'est tout le temps qu'on a, mais en même temps, Madame Wesley, il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que je pense qu'il n'y a pas juste les restaurants au milieu de la santé où on peut travailler si on décide de quitter le travail du sexe, mais ce sera le sujet peut-être d'une autre conversation à un autre moment donné. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler du couvre-feu, puis je pense que vous avez bien expliqué la problématique qui vous touche, vous et vos collègues travailleuses du sexe. Donc, je rappelle, Sandra Wesley, que vous êtes directrice générale de l'organisme Stella, qui regroupe et qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il y a une étude récente qui a été publiée dans le magazine scientifique The Lancet Oncology, donc relié au cancer, qui dit qu'il n'y a pas moins de 7000 cas de cancer dépistés au Canada en 2020 qui étaient attribuables à l'alcool. Donc, des spécialistes qui disent que dès le premier verre, le risque de cancer est accru dès la première consommation d'alcool. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise en garde qui serait apposée sur les produits alcoolisés pour prévenir tout le monde des dangers de l'alcool? On va parler de tout ça avec Geneviève Desautels, qui est directrice générale de l'organisme Éduc Alcool. Madame Desautels, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez pris connaissance de cette étude-là, ou ça ne fait que confirmer de l'information qu'on connaît déjà sur les dangers de l'alcool?
Effectivement, en fait, je ne suis pas surprise outre mesure du fait que nous, chez Éduc Alcool, ça fait depuis 2018, on a publié, c'est sur le site Internet, donc un recensement des différentes études avec la collaboration du docteur Philippe Sautier, là, une sommité dans le domaine. Là. Oui, il y a des risques à consommer de l'alcool par rapport à certains types de cancers, particulièrement qu'on parle du cancer de la bouche, du pharynx, œsophage, foie, larynx, pancréas, colon, rectum, prostate et le cancer du sein. Par contre,
bon, ça
fait
beaucoup,
pas alarmer
ça fait
les gens. Ouais, oui, mais il ne faut pas alarmer les gens parce que c'est un facteur de risque. Ça dépend évidemment, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Hein. Ça dépend évidemment de facteurs génétiques, ça dépend de la quantité consommée, puis d'autres agents cancérigènes extérieurs, tels que par exemple le tabac ou l'alimentation ou autre. Il n'y a pas de cause. T'sais, on ne peut pas faire une cause à effet. Tu bois, tu vas avoir le cancer. C'est pas ça du tout. On dit que pour certains cancers, effectivement, les ingrédients de l'alcool peuvent faire augmenter le risque d'avoir les différents cancers que je nommais précédemment.
D'accord. Par contre, il y a aussi eu pendant plusieurs années cette espèce de mythologie, beaucoup autour du vin rouge, où on s'était fait dire, on appelait ça le paradoxe français, comment ça se fait que les Français qui consomment autant d'alcool sont en si bonne santé relativement, puis on avait dit, ben, c'est parce qu'il y a du polyphénol, puis toutes sortes d'affaires dans le vin rouge, donc que le vin rouge peut même aider à maintenir une bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un danger à ce moment-là? Plein de gens qui se sont dit « Ah, l'alcool, c'est bon pour la santé, la petite bouteille de vin, ça va me garder vieille, ça va me garder vieille et en santé ». Est-ce qu'il n'y a pas ce mythe-là aussi qu'il faut défaire, Madame Desautels?
Ben, en fait, je vous dirais que encore une fois, on a une autre publication qui est « Alcool et cœur », qui celle-là a été faite avec une autre sommité dans le domaine, qui est docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie, et qui vient mettre des nuances. En fait, hein, vous le savez, avec l'alcool, comme avec beaucoup d'autres produits, tout est dans la nuance. Alors, dépendamment de notre condition physique à nous, de notre consommation, parce que évidemment, tout va augmenter en termes de risque lorsqu'on est dans l'abus, mais si on reste dans la fameuse modération, on a évidemment plus de chances d'aller chercher les bénéfices de l'un sans trop avoir les risques de l'autre. Mais encore faut-il, évidemment, être conscient et avoir des saines habitudes de vie. C'est à ça que j'ai envie qu'on se ramène aujourd'hui. C'est la question de tout est dans la nuance, puis de garder des saines habitudes de vie, de pas tomber dans l'excès parce que ça a l'air que c'est bon pour le cœur, puis où j'en bois pas du tout parce que je vais attraper le cancer. Vous comprenez un peu là les deux extrêmes qui ne seraient pas... qui ne seraient pas souhaitables.
Mais en même temps, il y a aussi des gens quand même qui disent dès le premier verre, il commence à y avoir un danger. Donc, pourquoi ne pas tout simplement mettre des étiquettes sur les bouteilles d'alcool, à tout le moins pour conscientiser les gens à ce danger potentiel-là? C'est-à-dire que au moins on conscientiserait les gens que c'est prendre un verre de vin, acheter une bouteille d'alcool, c'est pas la même chose qu'acheter du jus de pruneau. Là, il y a quand même une différence, parce qu'on vit quand même dans une société qui banalise l'alcool, qui banalise la consommation d'alcool. Et aussi parce que on sait qu'il y a des endroits où ils avaient tenté de faire ça, d'imposer une étiquette qui serait sur l'alcool, et que c'est le lobby des vendeurs d'alcool qui a dit non, 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 il faut pas faire ça. Donc, est-ce que les intérêts financiers doivent être plus importants que les intérêts de santé?
Ben, moi, je vous dirais que pour parler avec des chercheurs régulièrement, hein, évidemment, dans le cadre de mon travail à Éduc'alcool, je vous dirais que ça dépasse la question du lobby. C'est plutôt de qu'est-ce qu'on mettrait sur la fameuse étiquette. Parce que, comme je vous disais tantôt, les risques sont de tel pourcentage pour tel type de cancer, moins, puis ça dépend de combien de verres tu prends, puis ça dépend de ci, puis ça dépend de ça. Alors, l'étiquette va finir par être plus grande que la bouteille. Alors,
c'est très drôle.
Vous comprenez un peu l'histoire. Alors, moi, c'est ce que les scientifiques me disent, c'est de dire, OK, c'est beaucoup plus simple à l'heure actuelle où en est la science par rapport à ça, de faire le lien de cause à effet, par exemple, avec le tabac, hein, parce que les études, d'une part, l'ont démontré vraiment de cause à effet, alors que ici, on est plus dans une association, on est plus dans le risque qui dépend fonction de. Alors, c'est là qu'un étiquetage pourrait, j'ai envie de dire, démoniser. Autant tantôt vous parliez de banaliser, il faut surtout pas aller là, mais je pense que d'aller démoniser ou d'aller même traumatiser à certains égards, ça serait pas vraiment mieux là. Il faut rester encore une fois dans la nuance.
Parfait. Non, mais vous êtes, c'est très intéressant le parallèle que vous faites en effet avec la cigarette. Dans le cas de la cigarette, c'est facile de mettre fumer tue. Mais on peut pas nécessairement dire l'alcool tue. C'est le lien est pas aussi évident. Il me reste quelques instants pour vous parler, Madame Desautels, et je veux absolument parler, parce que là, on est en plein mois de janvier. Il y a beaucoup d'endroits à travers la planète où les gens font ce qu'on appelle le dry January, c'est-à-dire le mois de janvier à sec, des gens qui ne boivent pas pendant tout le mois de janvier. Ici au Québec, on a plus tendance à le faire en février, c'est le mois le plus court, donc on fait 28 jours sans alcool. Est-ce que c'est ce genre de comportement-là que vous encouragez, Éduc'alcool, ou vous préférez que les gens soient plutôt raisonnables à l'année longue plutôt que de s'abstenir pendant un mois?
Ben, en fait, le défi du 28 jours sans alcool, qui est une activité de financement pour la Maison Jean Lapointe, on peut pas être contre une activité de financement qui sert à aider puis à prévenir la surconsommation d'alcool. Hein. Ça c'est d'une part. Par contre, au niveau de la consommation, comme vous l'avez si bien dit, on va préférer que les gens soient plus modérés toute l'année que de dire comme un peu comme le régime alimentaire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de dire bon ben je vais essayer de faire attention, je vais manger moins de frites, moins de chips, puis là ben juste avant j'en mange plein, puis ben juste après j'en mange plein aussi, ben j'en mange plus. Alors, on appelle ça l'effet de rebond en science et on l'observe plus souvent qu'autrement là, quand les gens arrêtent d'un coup. Là. Alors, vaut mieux dire, encore une fois, je reviens aux saines habitudes de vie avec les normes de consommation à faible risque. Encore une fois, on n'a pas dit des normes de consommation sans risque. Là. On a dit les normes de consommation à faible risque qui sont deux verres par jour pour les femmes, 3 jours pour les hommes, et on ne boit pas tous les jours. Alors, dans le fond, notre mois sans alcool, si on le fait à chaque semaine en faisant une ou deux journées sans consommer d'alcool, bien on se crée une routine, des rituels de vie qui sont davantage privilégiés par la science, encore une fois. C'est pas une question d'éducation ou un autre organisme. C'est une question de, nous, on se base sur la science, puis on a le privilège de pouvoir travailler avec des chercheurs.
D'accord. Ben écoutez, ça a été extrêmement clair et pour les liens reliés au cancer et pour le sorte de d'excès suivi d'une période de restriction, suivi d'une période d'excès, ça a été très clair. C'est un plaisir de vous parler, c'est la première fois qu'on se parle, Madame Desautels, mais je sens que c'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Éduc'alcool. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci à vous, puis au plaisir.
Au plaisir, merci. C'est la fin de l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet, qui, lui, est notre réalisateur, metteur en onde, et il ne faut pas le consommer avec modération. Jean-François, là, c'est un gars extraordinaire, donc il n'y a pas de modération à avoir avec ses multiples talents. Je voudrais remercier également un jeune journaliste qui est stagiaire avec nous, Julien Boutillier, qui nous donne un coup de main absolument fabuleux à la recherche. Florence Lamour, Maud Boutet et Luc Fortin aussi à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain.
Cube Radio.